Non, j'aime bien les journalistes. Mais je déteste les questions.
Barbara, en noir et blanc.
Pas du tout, je ne vous injurie pas. Je réponds la vérité, je fais mon métier, c'est tout.
Une émission de Francis Legault.
Présentée par Anne Dorval.
Si je n'avais pas chanté, j'aurais peut-être été prostituée. D'ailleurs, chanter, faire de la scène, c'est un peu la même chose.
Barbara en noir et blanc, diffusée sur les ondes des radios francophones publiques.
Tu me paralyses en disant ça parce que je me souviens plus de ce que j'ai fait. Enfin, ça fait rien.
À l'automne 1993, c'est une Barbara à la fois fragile et lumineuse qui s'apprête à monter sur la scène du Châtelet. Toujours fidèle, les fans seront au rendez-vous. La femme qui chante ne se doute pas alors qu'elle entame sa dernière série de grandes messes. À l'émission Opus, avec François Delétraz.
Je ne sais pas du tout comment il va être le spectacle, je suis en train d'écrire. Il y a des chansons qui sont les mêmes, parce que moi je radote depuis 40 ans. Si c'est différent, c'est moi qui serais différente. Mais je ne sais pas s'il y a des choses différentes. Non, ça c'est sûr que je ne vais pas descendre sur un fil et, ou arriver sur des patins à roulettes. Mais je veux dire, donc, je ne sais pas. Il y a un piano, hein, il y a mes trois accompagnateurs, Daguerre, Henquin et Tomassi. Il y a Rouvérolis aux Lumières. Mais peut-être qu'il y aura une différence, ce sera à vous de me le dire, ou un changement, j'en sais rien. Mais c'est sûr que la femme au piano n'est pas devenue une femme au tambour, quoi.
Il y a quelques années, quand vous étiez au Châtelet, je passais par hasard au mois d'août, là-bas, et puis je m'étais caché dans les cintres.
C'est vrai ?
Et vous étiez en bas, assis sur votre rocking chair, en train de discuter avec les musiciens, et on avait vraiment l'impression que vous humiez, vous respiriez le Châtelet.
J'ai besoin d'aller y vivre et... Ah oui. Ah, vous avez fait ça ? Ah, vous avez fait ça ?
C'est pas discret.
Si, c'est bien. Si, parce que je l'ai pas su. Et c'est bien, ça m'aurait fait peur. Et c'est bien, vous avez bien fait. Des fois, il faut voler les choses, hein, parce que...
Pourquoi, après tant d'années, on a toujours cette angoisse et ces sentiments bizarres avant un nouveau spectacle ?
Normal, parce que plus on avance, plus il vous a été donné. Moi, il m'a été donné beaucoup. Et plus on a peur, parce que c'est comme un rendez-vous. Où on va, rendez-vous d'amour. Donc on a peur que les autres aient perdu le désir, comme c'est la chose quand même essentielle, s'il n'y a plus de désir. Et si tout à coup, on était seul à avoir le désir. Je pense que jamais cette peur ne s'arrête, et je pense que le jour où elle s'arrête, c'est qu'on a soi-même perdu le désir, et il faut s'en aller.
Encore une fois, la magie opère. Sur les planches, Barbara est tout simplement majestueuse. Après 3 semaines de représentation, pourtant, sans s'annoncer, la pneumonie frappe. Charlie Marouani.
Il était souffrant puisque nous avons dû annuler les 4 ou 5 derniers jours du Châtelet parce qu'il était vraiment fatigué. Donc on a annulé les 4 ou 5 derniers jours, c'était complet, on a dû rembourser. Mais elle a tenu à faire la tournée qui était prévue après, c'est-à-dire au mois de février, une fois qu'elle s'est bien remise, elle est repartie en tournée. Elle a fait tous les galas qui étaient prévus. Et après, elle a arrêté et dit « Maintenant, j'arrête. »
Le soir du 26 mars 1994, gravé dans la mémoire de l'accordéoniste, Sergio Tomassi.
J'ai son image sur un fly case. J'ai son image au théâtre Léonard de Vinci à Tours, la dernière de sa carrière, en fait, dernière date de sa carrière. Où elle nous fait « au revoir », comme si c'était une... Elle faisait... Et nous, on savait, enfin, pour plein de raisons, je savais que c'était fini, quoi. Je savais qu'elle ne monterait plus sur scène. Voilà, et elle a été persuadée qu'elle reviendrait.
Au revoir, nous étions bien ensemble, au revoir. Les liens qui nous assemblent ne pourront pas se défaire ce soir. Dans cette gare, pour ce train qui part. Au revoir, tu pars mais tu m'emportes, au revoir.
Barbara ne remontera plus sur scène. Pour son public, elle est allée au bout de ses forces. Son corps et sa voix sont usés. Charlie Marouani.
C'est pas la voix qu'il a quittée, c'est que pendant longtemps, elle a pris des médicaments pour pouvoir chanter. Donc, il lui arrivait quelquefois d'avoir un petit problème de voix. Donc, elle prenait ses médicaments à ce moment-là. Ça n'a pas toujours été bien. Elle trichait avec nous. C'est-à-dire en cachette, elle prenait des médicaments sans qu'on s'en aperçoive.
Jean-François Fontana.
En 1973, Lors d'une tournée, elle se trouvait à Marseille, elle devait chanter au Théâtre du Gymnase à Marseille, et à cette date-là, elle ne pouvait pas chanter. Elle n'avait pas de voix, elle ne pouvait pas chanter, et donc pour la première fois, elle a accepté qu'on lui fasse une piqûre de cortisone. Donc, en ce jour maudit, dit-elle, hein, de 1973, parce qu'à partir de là, ben, elle a trouvé que c'était merveilleux, hein, que la cortisone lui rendait instantanément toute sa capacité vocale, et elle dit elle-même qu'elle en a usé, abusé, et au point de, c'est ce qu'elle écrit hein, dans son livre, de se bousiller les os, les articulations, que la cortisone c'est un poison, mais que voilà, c'était tellement merveilleux, et ça lui a rendu sa voix.
Deux ans plus tard, au micro de Jean-Luc S.
sur France Inter.
Un jour ou l'autre, on est bien obligé de s'arrêter. On est obligé de s'arrêter, qu'on soit boulanger, qu'on soit chanteur, qu'on soit... Il y a un moment donné où il faut s'arrêter. Okay. Bon, là, il se trouve que c'est la vie qui m'a arrêté, hein, mais elle m'a arrêté quand même assez tard, parce que j'étais en scène, vous venez de parler du Châtelet, qui est quand même une chose qui était magnifique pour moi, et j'avais 63 ans. Quand je vais quand même pas chanter jusqu'à 100 ans, je veux dire. Je suis pas comme Jeanne Calment. Non, mais c'est vrai, vous comprenez ce que je veux dire. Bon, alors, bon, il se trouve que la vie m'a arrêté un petit peu avant. Bon, bah, ça regarde que moi, c'est pas... Et c'est tout. Et puis, bon, on en parle là aujourd'hui, mais en fait, ça fait 2 ans que j'ai arrêté. C'est... Je vais vous dire, aujourd'hui, il y a quand même des choses plus graves que le fait que je chante plus, ne serait-ce que là, ce qui vient de se passer, les nouvelles, les actualités, le jeune Marocain qui est mort, les attentats. Ça me paraît plus important que le fait que j'arrête de chanter. Un type qui chante, un chanteur, il y a un moment donné où il va plus chanter. Un homme qui... Pour des choses dire, un acteur, il y a un moment donné où il va plus jouer. Donc, c'est dans la logique des choses. Tout va bien.
Sergio Tomassi.
Lorsqu'on compare la voix de Barbara à ses débuts et celle qu'on a à la fin, effectivement, les choses étaient beaucoup plus intérieures qu'extérieures. Autrement dit, au début de sa carrière, les choses étaient plus extérieures, puisque la voix était beaucoup plus belle, elle projetait beaucoup mieux sa voix, elle respirait parfaitement. Et à la fin de sa carrière, la voix devient difficile. Elle était en apnée très souvent, c'est-à-dire qu'elle cherchait son souffle, son corps l'abandonnait. Plus le temps passait, plus son corps se dérobait. Mais elle était de plus en plus magique en scène. C'est-à-dire que c'était pas comparable. La dimension qu'il y avait au niveau de la sensibilité, la dimension intérieure, était beaucoup plus forte. Les gens de l'équipe, on était impressionnés par ce qui se passait. Parce que même des fois, si elle murmurait une note, qu'on sentait que la note sortait pas, il y avait cette intention, ce qu'on appelle la dramaturgie, qui était là, et ça devenait d'une puissance. C'était la chair de poule, quoi, à chaque syllabe. Mais c'est vrai que quand on a plus l'image, quand on devient extérieur, et qu'on essaye de monter un album avec un live, les choses peuvent être très douloureuses à entendre, oui, effectivement. Mais au niveau de la scène, quand les derniers temps on était avec elle et qu'elle chantait Nantes, et qu'à Nantes on se demandait vraiment ce qui se passait, mais on se demandait vraiment ce qui se passait, parce qu'elle rajeunissait de 30 ans. Son visage se transformait. Elle se métamorphosait, quoi.
Il pleut sur Nantes, et même la mer. Ciel de Nantes, en mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a bien longtemps déjà, la ville avait ce timbre lavard lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous 25 de la Grange au Loup. Vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années, il me revenait en plein cœur, son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps je l'avais espéré, ce vagabond se disparut. Voilà qu'il m'est revenu, 25 rue de la Grange au Loup. Je m'en souviens du rendez-vous et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu 4 hommes se lever. La lumière était froide et blanche. Il portait
telle l'habitude dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous 25 rue de la Grange au Loup. Mais il ne m'a jamais revu, il avait déjà disparu. Voilà, tu la connais l'histoire. Il était revenu un soir, et ce fut son dernier voyage, et ce fut son dernier rivage. Il voulait avant de mourir se réchauffer mon sourire, mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Au chemin qui longe la mer, à l'ombre du jardin de Pierre, je l'ai couché dessous les roses. Je crois que tranquille il repose, mon père. Mon père, il a pleu sur Nantes, et je me souviens, ce ciel de Nantes rend mon cœur chagrin.
L'animatrice, Elana Zera.
Il y a un moment, on ne comprenait plus un mot de ce qu'elle disait quand elle chantait. J'ai fait une interview, j'ai osé lui parler de ça. Marouani était là, elle me dit, bah, écoutez, vous avez de la chance, parce que la veille, il y a quelqu'un qui a parlé de ça, elle l'a foutu dehors. Et elle m'a dit une très jolie chose. Elle m'a dit, vous savez, les voix de femmes vont vers le grave. Et donc, je suis en train de perdre mes aigus. Et quand je chante, au lieu de redescendre mes chansons, de redescendre vers le grave, je cherche toujours les aigus qui se perdent. Et du coup, c'est vrai, je dois perdre un petit peu dans l'articulation. Alors, la voix, je disais, oui, c'est plus de la flûte, c'est du saxophone expressionniste. Sa voix ne l'a pas quittée, c'est une autre voix qui est venue. Et moi, j'aime beaucoup cette espèce de voix de la fin qui était déchirée, alors qu'au début, on a une espèce de flûte classique.
Le chanteur Gilles Vigneault.
Le timbre. Ah, Barbara chantait comme quelqu'un qui veut vivre, mais elle chantait en dernier soupir. Constamment, on l'entendait mourir. On l'entendait mourir dans sa voix. Et ça avait une séduction extraordinaire chez tout le monde. Et Barbara, c'était en même temps une espèce de caillou dur d'apparence. Et puis, on sentait qu'il fallait pas l'échapper par terre, parce qu'il ne nous resterait rien que des miettes.
À l'émission Opus.
La voix, elle, évidemment, elle vieillit. D'ailleurs, c'est vrai que moi, j'ai eu un moment donné la voix qui s'est cassée et qui, bizarrement, revient maintenant. Enfin, bon, alors, ben, il faut aller avec. Faut pas aller contre les choses. Faut pas, quand on, par exemple, on rentre en scène, on se sent très laid. Bon, ça va arriver des soirs, encore bien que la scène rentre beau, mais, eh ben, il faut pas aller contre cette laideur. Il faut aller avec cette laideur. Il faut pas lutter contre soi, mais être avec soi. Parce que si on s'accepte pas dans cet instant-là, on va pas passer. On va pas passer. Tu vois ce que je dis? On va faire ensemble. Tant pis si on lâche pas, quoi. Et je dirais même peut-être accentuer cette chose plutôt que d'essayer de la masquer. Tu peux tout faire sur une scène si tu fais frire des œufs et que vraiment les gens arrivent à sentir l'odeur et les manger, c'est bon. Si tu fais frire des œufs et qu'il n'y a pas d'odeur, ça va pas.
Si ses problèmes de santé obligent Barbara à abandonner la scène, en revanche, son engagement auprès des Sidéens, lui, ne s'essouffle pas.
Jeu de Louis, il chante pour le monde aujourd'hui Barbara, qui fut une des premières à parler du sida.
Quand c'est arrivé, la première fois que j'ai entendu parler, il m'a semblé que ça allait être une chose effrayante. Et que puisque je parlais tellement d'amour et qu'arrivait cette chose dans l'amour et par l'amour, que peut-être je pouvais en parler. Et j'ai cru que je pourrais en parler aux gosses, etc. Donc j'ai écrit la chanson. Et je l'ai chantée. Et puis après, alors souvent on m'a dit oui, c'est parce que vous êtes tenté par la mort, ce que nous racontez, le sida, etc. Mais moi, j'avais cette certitude que déjà, c'était une chose très grave. Alors que quand j'en parlais, on me disait, mais non, et puis il ne faut pas en parler, et ceci. Donc, j'ai commencé ce combat, j'ai bougé autour de ça, j'en ai parlé aux gosses, parce que ça concernait tout le monde, et il y avait une espèce de discrimination qui faisait qu'on disait, et maintenant on s'aperçoit que les femmes sont touchées, c'est hallucinant, j'ai entendu le jour à radio, ah ben oui, les femmes aussi, mais comment les femmes aussi, mais on le savait, comment les femmes aussi. Et les enfants sont touchés, et on n'en parlait toujours pas, toujours cette manière de se dissimuler, de se cacher derrière son petit doigt, et le mal avançait. Et aujourd'hui encore, si vous voulez, je continue de dire, tant pis si on en rit, qu'il y a une non-information. Bien sûr, on sait que la HIV existe. Bien sûr, on sait que le sida existe. Mais on ne sait toujours pas, on en est toujours à savoir si ça s'attrape par une brosse à dents. Moi, je connais des gens encore qui posent ces questions. Donc, s'ils les posent, c'est qu'ils ont besoin qu'on leur explique. De même qu'il y a eu à un moment donné, au départ de cette maladie, où les familles, enfin, où on ne suivait pas. Moi, j'ai vu partir tellement de malades seuls. Et quand j'ai commencé à entendre que c'était une punition de Dieu. Alors, si on ne bouge pas à ça, ce que vous voulez, c'est terrible. Une punition de Dieu. On l'a entendu, celle-là.
France Inter. Depuis le milieu des années 80, Barbara ne baisse pas les bras. Elle écrit Sida Mourra Mort, visite les hôpitaux et fait même installer une ligne téléphonique chez elle où les malades peuvent l'appeler la nuit. Barbara veille. Sergio Tomassi.
Je la voyais quitter la répétition, elle avait des patients qui étaient en phase finale du sida, qui étaient en train de mourir du sida. Et elle quittait la répétition et elle allait les rejoindre. Elle leur tenait la main jusqu'à la dernière seconde. Et elle revenait le lendemain, elle avait à peine dormi. Elle a été au chevet de je ne sais pas combien de patients qu'elle aidait à mourir, quoi. Et à un moment donné, je lui disais, mais vous croyez que c'est raisonnable de... Et elle disait, je ne peux pas les laisser tout seul. Elle me disait des énormités, les familles qui étaient à son chevet, qui n'acceptaient pas le compagnon, et qui parlaient, bon, bah alors l'appartement, il va falloir qu'on fasse ceci, en présence du concubin. Elle a dit à des familles, quittez la chambre, je vous en supplie. On a vu des cadavres arriver sur scène. Quand je dis des cadavres, c'est violent, mais c'est ce qui vous apparaît. Je vois un mort arriver sur scène. Mais cet homme-là, j'avais raison de dire, une semaine après, il n'était plus de ce monde. Ils voulaient voir Barbara une dernière fois. Ils l'ont amenée jusque sur scène. Ils voulaient toucher la main de Barbara une dernière fois.
Hélène Azéra.
Il faut vraiment dire qu'elle a fait un boulot, mais inouï pour le sida. Inouï. Dans les hôpitaux, j'avais un ami qui était malade. Toc, c'est Barbara. Elle rentre dans sa chambre d'hôpital, il ne la connaissait pas. Elle est restée une demi-heure, elle est repartie, elle lui a fait deux chèques. Un chèque pour un appareil photo, il était photographe, un chèque pour un voyage. Elle avait fait tout le couloir de l'hôpital, le carnet de chèques à la main. Et elle m'a dit, je ne suis jamais rentrée dans une chambre si on ne m'en a pas donné l'autorisation. Et le jour où je l'ai interviewée, je connaissais cette histoire, je lui en ai parlé, elle me dit, écoutez, si vous en parlez, je ne pourrais plus faire ça. Donc je n'ai rien dit.
Le docteur Gilles Pialoux.
Barbara, c'était pas one shot. Si elle venait, elle laissait un téléphone, elle laissait... Bon, vous allez me dire, il y avait un suivi, vous voyez, c'était pas juste je visite, j'ai une cour qui rentre dans la chambre, je me rappelle de la visite de Liz Taylor à Pasteur. Déjà, il fallait sélectionner les malades qui parlaient anglais. Bon, chez nous, c'est plus compliqué les malades qui parlaient anglais, vous savez, il n'y en a pas beaucoup. Barbara, c'était là où elle faisait la différence, c'est probablement que... Elle n'était pas inquiète par le pathos, vous voyez ce que je veux dire ? C'est une grande tolérance au pathos.
C'est la première fois aussi, je crois, je n'en sais rien parce que je ne suis pas un scientifique, que l'amour est assassiné comme ça, par un mal terrifiant. Donc, vous le savez bien, moi mes chansons sont des chansons d'amour, il m'était difficile de ne pas tout à coup parler du sida qui est vraiment l'amour assassiné. C'est aussi une chose terrible que tout à coup on puisse mourir d'amour, qui est le romantisme même, hein, qu'on ait toujours rêvé de mourir d'amour, je mourrai d'amour pour toi, et finalement on meurt vraiment d'amour, et par l'amour.
Ça c'est une chanson que j'aurais vraiment aimé ne pas avoir écrite. Si s'aimer d'amour, c'est mourir d'aimer. Sans mourir d'amour, sida.
si damnée. Elle est damnée d'amour à mourir d'aimer. Ils sont morts d'amour, d'amour si damnée. Oh, sida.
Le chanteur et maire de Précy, Yves Duteil.
On était allé la voir au Théâtre du Châtelet à Paris. Et dans ce spectacle, elle distribuait à la volée des préservatifs à la fin du concert pour, en disant « Jean, protégez-vous ». Et elle nous a appelés un soir en nous disant « Ben voilà, le spectacle se termine, donc il nous reste beaucoup de préservatifs et je ne sais pas quoi en faire. Donc est-ce que, par exemple, à la mairie, ça vous intéresserait d'en avoir ?» Alors je dis « Ben oui, bien sûr, oui, oui, absolument ». Et on s'est retrouvés avec 1 mètre cube de préservatifs. Moi, dans la boutique de mes parents, qui était une bijouterie, il y avait toujours une corbeille de bonbons à la caisse. Et tout le monde venait se servir et prenait des bonbons. Alors on a mis une corbeille de préservatifs à la mairie pour que tout le monde puisse se servir et repartir de la mairie avec des préservatifs.
Jacques Attali.
C'était à l'Élysée où elle était venue pour une remise de Légion d'honneur. Elle a demandé à me revoir et on a déjeuné ensemble. Elle avait le souci d'aider ce qui commençait à apparaître comme une maladie très grave, c'est-à-dire le sida. Ce qu'elle voulait, c'est pouvoir entrer dans les prisons pour aller voir les gens qui étaient en situation séropositive. Elle allait déjà dans les hôpitaux pour le faire. Vous savez, c'était pas du tout une star comme on l'entend aujourd'hui, distante, fermée. C'était une femme pudique, timide, refusant les mondanités, n'allant jamais dîner chez personne. Et cette première rencontre, c'était très curieux de voir cette dame que j'admirais depuis si longtemps venir me demander comme service de pouvoir entrer discrètement dans les prisons.
Le docteur Pialou se souvient de ses visites dans les prisons avec Barbara.
Toute la matinée se passait à rencontrer le personnel pénitentiaire, les travailleurs sociaux, les représentants de détenus, etc., les personnes éventuellement qui voulaient la voir. Et l'après-midi, il y avait ce qu'elle avait inventé, c'est-à-dire une partie spectacle, elle faisait 7, 8, 10 chansons. Et puis, elle expliquait qu'elle était là pour chanter, mais qu'elle était là aussi pour... qu'elle était venue avec son docteur, comme elle disait. Je suis venue avec le docteur Pialou, qui va vous expliquer des choses très simples, très claires sur le sida. Et ça fonctionnait. C'est-à-dire que même dans les prisons, où on nous avait dit, vous allez vous faire jeter, Mais ça fonctionnait, c'est-à-dire ça fonctionnait, les gens ne mouffetaient pas. Et bon, on en a fait, je sais pas, une 17, ou peut-être 17, c'est dérisoire, hein, mais 17 prisons, et ça a toujours fonctionné, quoi. Travail de fourmi, la fourmi Barbara, quoi.
Barbara, avec Pierre Bouteiller.
Dans les prisons, c'était abominable, dans les prisons.
Vous avez chanté souvent dans les prisons, enfin, vous êtes allé le voir.
Oui, voilà, donc oui, j'ai chanté, oui. Alors des préservatifs, on vous disait non, parce que bon, les hommes vont pas en prendre, parce que sinon c'était admettre leur homosexualité, donc être discriminé dans la prison, et etc. Mais il y avait quand même une homosexualité de circonstances, enfin, et donc il y avait pas de préservatif, il y en avait pas, et personne parle de rien d'ailleurs dans les prisons, puisque bon, c'est vrai que je suis allé dans les prisons et qu'à ce moment-là il y avait très peu de gens qui parlaient. Ed ne pouvait pas pénétrer dans les prisons, parce qu'on disait ce sont des PD, ils n'ont pas... Bon, il y avait tout ça. Mais tout ça, c'était quoi? Mais c'était la mort, tout ça.
France Inter. La mort, Barbara n'a jamais eu peur d'en parler. Loin de la fuir, elle en fait un thème récurrent dans ses chansons. En interview avec Jean-Claude Bringuier, Barbara n'a alors que 34 ans.
Est-ce que vous voyez votre vie dans 15 ou 20 ans?
Ah non, pas du tout, je serais morte.
Vous serez mort?
Oui.
Est-ce que vous avez peur de vieillir?
Pas du tout, je n'ai pas peur de vieillir, mais c'est très difficile de vieillir. J'aimerais vieillir bien, joliment. C'est tellement beau, une femme qui vieillit joliment. Mais je n'aurai pas ça, ce problème-là. Je ne pense pas que ça va être long encore.
C'est triste, ça, non?
Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a de triste là-dedans? Je pense que les êtres peuvent très bien décider de mourir à 30 ans, à 20 ans, à 35 ans. Il y en a dont la vie s'arrête plus tard et dont la vie s'arrête plus tôt. Ce n'est absolument pas triste du tout. Je ne vois pas ce qu'il y a.
Vous pensez que c'est l'affaire de chacun et que...
Absolument, oui, je le pense. En tout cas, je pense que c'est mon affaire.
À mourir, pour mourir, j'ai choisi l'âge tendre
et partir pour partir. Je ne veux pas attendre, je ne veux pas attendre. J'aime mieux m'en aller du temps que je suis belle, qu'on ne me voit jamais fanée sous ma dentelle, fanée sous ma dentelle. Et ne venez pas me dire qu'il est trop tôt pour mourir. Avec vos aubes plus claires, allez donc vous faire l'enlair. J'ai vu l'or et la pluie sur les jardins d'automne, les forêts alanguies, la vague qui se cogne, la vague qui se cogne. Au ventre de la nuit, j'ai couché ma jeunesse. Mes matins ont fleuri dans des lits de caresses, dans des lits de caresses. Et tant mieux s'il y en a qui, les yeux pleins de lumière, ont préféré les combats pour aller se faire l'enlair. Au jardin du bon Dieu, ça n'a plus d'importance qu'on s'y couche amoureux ou tomber pour la France, ou tomber pour la France. Il est d'autres combats que la feu des mitrailles. On ne se blesse pas qu'à vos champs de bataille, qu'à vos champs de bataille. Et ne comptez pas sur moi s'il faut soulager mes frères, et pour mes frères ça ira. J'ai fait ce que j'ai su faire. Si c'est peu, si c'est rien, qu'il décide de même. Je n'espère plus rien, mais je m'en vais sereine, mais je m'en vais sereine. Sur un long voilier noir, la mort pour équipage. Demain c'est le revoir, je quitte vos rivages, je quitte vos rivages. Sur leurs beaux habits neufs, s'ils versent une larme, au consoler mes veufs, ils oublieront mes charmes, ils oublieront mes charmes. Je ne leur laisse rien, je n'ai pas d'héritage, ni fortune, ni bien. C'est trop jeune à mon âge, c'est trop jeune à mon âge. Car mourir pour mourir, je ne veux pas attendre. Et partir pour partir, j'ai choisi l'âge tendre.
La journaliste José Blanchette.
Pour moi, Barbara, c'est une des personnes qui m'a donné la permission d'en parler, qui me donnait l'impression aussi de s'être préparée toute sa vie pour ce grand moment-là. Elle en a composé tant et tant, donc c'était un thème fondamental pour elle. Autant que l'amour, hein, c'est Eros et Thanatos, et dans son cas, c'est deux thèmes très, très porteurs. Tu sais, elle aime mieux s'en aller du temps où elle est belle, qu'on ne va jamais faner sous ma dentelle, nanana. Ou alors, t'as des chansons beaucoup plus... tu sais, il y aura du monde dans l'enterrement. Alors là, la musique est plutôt joyeuse, mais le texte, alors là, c'est lapidaire. En fait, ce qu'elle dit, c'est toute la mascarade des funérailles, puis elle se moque de tout le monde. Et ça, c'est magnifique, tu sais, parce que t'as l'impression qu'elle est encore vivante dans son cercueil, puis qu'elle regarde tout le monde passer, puis qu'elle dit « Ah, tu sais, t'es là, toi, ma vieille vache, t'sais. » Et puis bon, t'as l'impression qu'elle est toujours là, quoi, que même morte, est encore là à te regarder, ou à voir les choses qui se passent. Ou... Elle était capable de se dissocier de son vivant et de se voir, de se projeter dans cet autre état. Et c'était pas nécessairement toujours triste. Moi, je pense que dans la mort, il y a... Et chez Barbara, je le sens. C'est pour ça que je trouve pas ça déprimant, écouter du Barbara. Je pense que la mort est une libération, profondément. Donc, elle nous libère.
Ce qui se passe, c'est qu'on se cache derrière son petit doigt. Dès qu'on vous parle de mort, on s'est mal élevé. C'est juste si on ne fait pas, c'est mal élevé. Mais à partir du moment où un enfant naît, à l'instant même où il est la vie, il s'achemine vers quoi? Vers la mort. Et c'est pas triste, c'est comme ça. C'est pas moi qui ai inventé la mort. On me dit, oui, vous êtes triste. Non, bah, vous n'êtes pas triste du tout. C'est comme ça. Mais on ne parle jamais de la mort. Ce qui fait que ce qui est dramatique, c'est que quand on devient, qu'on perd quelqu'un, on se trouve tout à fait démuni parce qu'on ne nous a pas appris. On ne nous a pas appris la mort. Si on apprend la vie, il faut apprendre la mort. Parce que ça va vers ça.
Et c'est pas triste.
Guy Bedos.
J'avais dit d'elle, c'est la seule chanteuse française vivante qu'on applaudit comme si elle était déjà morte. Et comme j'avais dit ça à la radio, je crois, j'avais peur que ça lui soit répété mal. Donc je lui ai dit, en disant que c'était pour rire, évidemment, ce qui était vrai d'ailleurs. Elle m'a dit, fais attention, tu vas le regretter un jour, mon chéri, parce que je suis pas en très bonne santé. Fais attention à ce que tu dis sur moi et sur la mort.
De passage à l'émission Appelez-moi Lise, dans les années 70.
Vous allez finir comme ça, Barbara, seule dans un coin quelque part?
Ah non, je pense pas que je finirai seule. Je finirai pas seule parce que ça me paraît difficile, non, non. Non, non, je crois pas, ou alors on sait pas ce que la vie nous réserve, ce que la mort nous réserve. Si je finis seule, c'est que je me cacherai, mais je pense pas que je puisse finir. J'en sais rien. Je pense pas finir très vieille, moi. Alors, de toute façon, je pense que ce sera... Ma vie est une chose comme ça, claque, et ma mort sera aussi une chose claque, comme ça. Je pense pas que je finirai ma vie, si vous voulez, je veux dire. Je pense que ça va arriver
En pleine activité.
En pleine activité, pleine force.
Et c'est comme ça que vous voulez les choses.
Oui, c'est bien, ça, c'est bien.
Qui est cette femme qui marche dans les rues? Où va-t-elle? Dans la nuit brouillard, où souffle un hiver glacé, que fait-elle? Cachée par un grand foulard de soie, à peine si l'on aperçoit la forme de son visage. La ville est un désert blanc qu'elle traverse comme une ombre irréelle. Qui est cette femme qui marche dans les rues? Qui est-elle? À quel rendez-vous d'amour mystérieux se rend-elle? Elle vient d'entrer de sous un porche et lentement prend l'escalier. Où va-t-elle? Une porte s'est ouverte, elle est entrée sans frapper. Devant elle, sur un grand lit, un homme est couché. Il lui a dit, je t'attendais, ma cruelle. Dans la chambre où rien ne bouge, elle a tiré les rideaux. Sur un coussin de soie rouge, elle a posé son manteau. Et belle comme une épousée, dans sa longue robe blanche, en dentelle, elle s'épanche sur lui qui semblait émerveillé. Que dit-elle? Elle a repris l'escalier, elle est ressortie dans les rues. Où va cette femme? La dernière épousée, celle qui vient sans qu'on l'appelle, la fidèle. C'est l'épouse de la dernière heure, celle qui vient lorsque l'on pleure. La cruelle, c'est mort, la mort qui marche dans les rues. Méfie-toi, referme bien tes fenêtres, que jamais elle ne pénètre chez toi. Cette femme, c'est la mort. La mort.
Le 25 novembre 1997, Mine Vergès.
Oh mon Dieu, quelle horreur. Ben d'abord, j'étais dans ma baignoire, en train de prendre mon bain. C'était 7h du matin, quelque chose comme ça. Et à la radio, ils ont dit que Barbara était très malade, qu'elle était à l'hôpital américain. Mais la manière dont ils ont parlé, je me suis dit, c'est fini, je ne reviens plus.
Barbara, la grande dame brune de la chanson, est morte hier soir à l'hôpital américain Neuilly, près de Paris. Elle y avait été admise en urgence dans la nuit de dimanche à lundi. Elle avait 67 ans. Barbara souffrait de graves troubles respiratoires qui l'avaient obligée à interrompre ses récitals au Théâtre du Châtelet en décembre 1993, il y a déjà 4 ans. Son dernier album, intitulé « Seul », était sorti il y a juste un an et lui avait valu une victoire de la musique. C'était son premier disque depuis 16 ans. Barbara, comme la plupart des artistes de cette dimension, faisait partie de notre vie à tous.
Juliette Gréco.
Il y a toujours de bonnes âmes pour vous annoncer des mauvaises nouvelles. Donc, j'ai une amie, entre parenthèses, qui m'a appelée pour m'annoncer ça le plus vite possible. Et je ne lui parle plus. J'ai horreur des oiseaux de mauvais augure. Et je ne suis pas allée à l'enterrement parce que je ne voulais pas la déranger. Je peux aller toute seule, la voir, si je veux. Si j'ai envie de lui apporter un bouquet de violettes, j'aurais pas 25 photographes pour me voir poser le bouquet de violettes.
Le dernier hommage à Barbara, les obsèques de la chanteuse ont eu lieu ce matin à Bagneux. Beaucoup d'émotions pour tous ses admirateurs, qu'ils soient anonymes ou célèbres.
En pareille circonstance, on les nomme les anonymes. Le public, la foule de ceux qui ne font pas partie des gens célèbres. Ils étaient très nombreux ce matin au cimetière. Et l'on pouvait lire sur ses visages l'authenticité du lien qui unissait Barbara à chacun de ses admirateurs.
À chaque fois que j'ai eu des émotions dans ma vie, des douleurs, j'ai trouvé du réconfort dans les chansons de Barbara.
Barbara avait émis la dernière volonté de funérailles aussi austères que le fut la fin de sa vie. Ni cérémonie religieuse, ni musique, ni grande pompe. Simplement un cercueil couvert d'un drap noir que l'on porte en terre. Tout fut fini en quelques minutes, après quelques mots lus par l'une de ses sœurs, et quelques mots encore lus par l'un de ses amis, Gérard Depardieu.
Chante, chante encore, comme disait David à Lily Passion. Tu vis maintenant dans ton île aux mimosas où déjà tu es reine. Chante-moi l'amour, mon ange, chante, je t'aime.
Ce sont les proches de Barbara qui ont ensuite eux-mêmes porté le cercueil en terre dans le caveau familial. À ce moment-là, le silence dans le cimetière de Bagneux était impressionnant.
Charlie Marouani.
Je ne crois pas avoir dans ma vie assisté à des funérailles aussi touchantes, aussi émouvantes. Il y avait des centaines de gosses, comme elle disait. Les enfants se sont mis à chanter des chansons de Barbara, ça durait une heure et demie. C'était incroyable, ils chantaient a cappella, toutes les chansons de Barbara, personne n'avait envie de partir, tout le monde pleurait. C'est extraordinaire. J'étais avec Jean-Claude Brialy, il me dit « Partons ». J'ai dit « Mais écoute, là on vit un moment exceptionnel, c'est étonnant ». Je me dis, ils étaient des centaines, c'est pas trois ou quatre, ils étaient ça, ils pleuraient, ils sanglotaient, mais ils chantaient, ils voulaient plus partir. Elle a dû aimer ça.
Du monde à l'enterrement, si l'on en croit les apparences, s'ils viennent tous à l'enterrement, ce que je trouve avec outrance, couché là sur mon paillasson, lorsque je n'y suis pour personne, ou pendu avec des raisons au fil de mon téléphone, ou pendu avec des raisons au fil de mon téléphone. Il y aura du monde assurément, au nom du père, au nom du fils, s'ils viennent tous à l'enterrement, ce que j'aimais de père en fils, ça me fera un gentil régiment, me rendant les derniers offices pour mes bons et loyaux services le jour de mon enterrement. Pour mes bons et loyaux services le jour de mon enterrement. Et celles qui, je l'ai bien connue, les pas belles, les cancanières, et celles qui ont de la vertu, mais de bien méchantes manières, viendront dans leur robe de bal me dire un petit compliment pour ma dernière générale le jour de mon enterrement. Pour ma dernière générale le jour de mon enterrement. Les mondains, les encanaillés, les mesdames, les sous-préfètes, trois petits fours et deux avés, à la fête comme à la fête, se diront pour passer le temps, à voix basse des bagatelles, tout en se repassant la pelle, le jour de mon enterrement, tout en se repassant la pelle, le jour de mon enterrement. Ah, je voudrais rien qu'un instant les voir sur la dalle froide, agenouillés et marmonnant, en avant pour la mascarade, ceux qui viennent des fonds semblants, effeuillant d'une main distraite, du bout du cœur, du bout des gants, un chrysanthème, un je regrette, un peu beaucoup passionnément, le jour de la dernière fête, le jour de la dernière fête, au jour de mon dernier matin, au jour où je me ferai belle, au jour où salut les copains, je pars pour là-bas, on m'appelle, j'irai cultiver mon jardin, j'irai voir fleurir mes roses, d'un autre côté du chemin, d'un autre côté du chemin, bah, ça fera du monde volontairement, et fini la douce habitude, celle-là de passer mon temps, à vivre dans la solitude, je sens qu'au dernier rendez-vous, non, non, je ne serai pas seulette, qu'il vienne et ce sera vivant, le jour de mon enterrement, qu'il vienne et ce sera vivant, le jour de mon enterrement. Je veux que ce soit au printemps, à l'heure de la belle lumière, je veux m'en souvenir longtemps, de l'heure de mon heure dernière, et lorsque je serai couchée, au-dedans de la bonne terre, pour vous tous que j'ai tant aimé, durant cette vie tout entière. Si vous entendez, ma dernière petite chanson surtout. N'en ayez pas de peine, c'est pour dire adieu, je vous aime et je m'en vais le cœur content. C'est pour dire adieu, je vous aime le jour de mon enterrement, le jour de mon enterrement.
Barbara et Franck Musy.
Si un jour, les gens ne venaient plus écouter Barbara, pour une raison ou pour une autre, si un jour vous vous trouviez dans des salles vides, qu'est-ce qui se passerait?
Je vais vous dire, je suis sûre que je partirais avant. Je suis sûre que je serais partie déjà. Je crois pouvoir vous affirmer que je serais partie avant le jour-là.
Serge Lama.
Mais je crois que pour elle, c'était temps. Parce qu'il faut savoir des fois que pour certains artistes, c'est une chance de mourir. Il y a un moment où ils ont dit tout ce qu'ils ont à dire, ils ont fait tout ce qu'ils ont à faire, et là, il faut qu'ils partent, les artistes. Vous imaginez Barbara traîner jusqu'à 80 ans et plus pouvoir chanter, parce qu'elle pouvait plus chanter, la voix était partie. Mais vous l'imaginez, dans cette maison là-bas, dans le noir où elle vivait, non, c'était dans ce sens-là. C'était bien qu'elle disparaisse à ce moment-là. C'est une femme qui avait déjà la soixantaine passée et on a l'impression que c'est une femme jeune qui est partie. C'est James Dean.
Avec Jean-Luc S.
Je trouve que vous avez une vie magnifique, moi.
Oui, vous avez raison. C'est même un peu honteux, c'est vrai. Je suis quelqu'un qui aime passionnément la vie, qui est plein de pourris de défauts, qui a quelques qualités aussi. C'est formidable. Ce sont des privilèges formidables de pouvoir faire une chose qu'on aime, comme on a. Alors il y a eu des choses difficiles, mais on n'en parle pas parce qu'on les oublie ces choses-là. On les oublie. C'est formidable de pouvoir faire une chose et vous le savez bien que l'on aime et comme on aime.
Marie Chex.
Je dirais je rêve au moins une fois par semaine de Barbara. Et c'est des rêves, ou bien c'est l'angoisse totale, c'est-à-dire que j'ai perdu ma valise, on a perdu le micro, vous savez, comme dans des rêves, on peut avoir des choses terribles, et elle m'engueule comme du poisson pourri. Ou alors, c'est des rêves d'une gaieté extraordinaire, où elle me dit, mais pourquoi tu travailles plus avec moi? Pourquoi t'es plus avec moi? Viens en tournée, viens, et j'y vais. Et alors, je me dis, mais qu'est-ce que va dire ma famille? J'ai des enfants, des petits-enfants, j'ai un mari quand même à la maison. Et elle dit, mais non, t'en fais pas, ils s'habitueront.
Avec Maurice Béjart.
Je pense toujours qu'avec des lunettes, une paire de lunettes, et un piano, je peux faire le tour du monde. Je pense toujours ça.
Pourquoi une paire de lunettes?
Parce que je suis très myope. Est-ce que tu as remarqué cette chose, que quand on n'a pas de lunettes, et que quelqu'un vous parle, on n'entend pas. Et alors ça fait rire, mais c'est pas drôle, on voit pas les lèvres. Et moi, sans lunettes, je n'entends pas. Alors est-ce qu'au fond, je ne serais pas plutôt sourde comme il
Jacques Chancel.
Elle était une grande prêtresse. Je me demande même si elle n'aurait pas pu être à la tête d'une secte. Le culte, alors là, était... Je n'ai jamais vu ça. Je voyais, lorsqu'elle donnait un concert en récital, ils étaient là, rassemblés, comme si vraiment il participait au grand discours d'un gourou. On n'aurait jamais constitué une secte. Mais elle était un peu, la grande prêtresse.
Il faut essayer, c'est ce que je dis toujours à l'équipe avant de rentrer en scène, essayons d'être magiques. Je dis ça tous les soirs. Essayons d'être magiques. Parce que c'est ça que les gens viennent chercher, dans un monde qui est terrible, terrible. Essayons d'être magiques un instant.
Jérôme Garcin.
C'est une femme qui a le privilège inouï d'être entrée dans nos vies. Parce que vous le savez comme moi, chacune de ses chansons nous parle d'elle, je vous le disais, c'est une œuvre intime, mais nous parle aussi d'abord de nous, parce qu'on a tous connu des amours, des inquiétudes, des souffrances, des bonheurs, dont on a vraiment le sentiment que c'est elle qui les exprime le mieux. Et je crois que c'est ça aussi qui fait que, voilà, que sa vie se prolonge bien au-delà de sa vie réelle.
Je n'ai jamais eu aucune imagination. Je lui ai toujours dit, je ne suis pas quelqu'un qui écrive. Je ne suis pas un poète. J'ai écrit petitement avec la petite vie de femme, de chaque jour, avec mes drames, avec mes morts, avec mes amours, déchirées, heureuses.
À l'émission Quotidien Pluriel.
Vous savez la place que vous occupez dans le périmètre de la chanson française?
Dans la chanson française, non, je ne sais pas du tout. Et un peu, ça m'agace un peu cette...
ça maintenant tout à coup, cette espèce de truc, la chanson française. Mais ça a toujours été la chanson. Qu'est-ce qui se passe là tout à coup? On dit, mais alors que tu veux pas défendre la chanson française, mais quoi, il n'y a rien à défendre, il faut chanter.
La semaine de la chanson française.
Oui, mais c'est 100 mois ça, la chanson française. Alors il y a la semaine du blanc aussi. Je veux dire, ça, j'aime pas beaucoup ça. Je veux dire que défendre la chanson française. Est-ce qu'on chante? Oui, l'année de la femme ou l'année du personnage, l'année de l'enfance, puis après, hop, terminé.
Fini.
Terminé.
Voilà.
Alors ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas. Je pense qu'il n'y a pas à défendre la chanson française. Il y a à chanter si on a envie de chanter, puis c'est fini, terminé. Je veux dire que ça veut dire déf. Ça, j'aime pas tellement ça, moi. J'ai envie de dire, mais vous savez, I don't speak French.
Parce que Barbara aurait sans doute aimé qu'on flirte avec ses chansons. Ariane Moffat et le pianiste Alexis Dumay.
Je sais que des fois, j'ai la réputation de transformer des chansons, de m'y réapproprier, tout ça, mais on dirait que pour celle-là, ma place était dans me rapprocher de ce qu'elle a fait puis de le faire du mieux que je pouvais sans virer tout à l'envers. Mais oui, c'est important de garder vivant ce répertoire-là puis que tout le monde y touche puis qu'on puisse continuer à parler de son travail puis la laisser vivante dans l'histoire, dans la mémoire de la chanson française.
C'est parce que ton épaule à mon épaule, ta bouche à mes cheveux et ta main sur mon cou. C'est parce que dans mes reins, quand ton souffle me frôle, c'est parce que tes mains, c'est parce que joue à joue, c'est parce qu'au matin, c'est parce qu'à la nuit, quand tu dis viens, tu souris, je souris. C'est parce qu'ici ou là, dans un autre pays, pourvu que tu y sois, c'est toujours mon pays. C'est parce que je t'aime que je préfère m'en aller. Car c'est mieux, crois-moi, de se quitter avant que ne meure le temps d'aimer. C'est parce que j'ai peur de voir s'endeuiller les minutes, les heures, les secondes passer. C'est parce que je sais qu'il faut un presque rien pour défaire une nuit et se perdre au matin. Je ne laisserai pas pencher sur notre lit ni l'ombre d'un regret, ni l'ombre d'un ennui. Je ne laisserai pas mourir au fil des jours ce qui fut toi et moi, ce qui fut notre amour. Il ne sera jamais emporté par le temps. Je l'emporte moi-même, il restera vivant. Laisse-moi, je t'aime, mais je préfère m'en aller. Car c'est mieux, crois-moi, de se quitter avant que ne meure le temps. J'en ai vu comme nous qui allaient à pas lents et portaient leur amour comme on porte un enfant. J'en ai vu comme nous qui allaient à pas lents et tombaient à genoux dans le soir finissant. Je les ai retrouvés, furieux et combattants, comme deux loups blessés. Que sont-ils maintenant? Avant que ne meure
C'était Barbara en noir et blanc sur France Inter.
À la recherche, Marie-Pierre Duval.
À la technique, Serge Brideau.
Une musique originale de Jean-Phi Goncalves.
Chapeau bas aux archives de la RTS et de la RTBF, à France Bonneau de Radio-Canada et surtout à Christelle Rousseau, Véronique de Saint-Pastou et Marie Jarraud de l'INA.
Cette émission est présentée par Anne Dorval
et signée Francis Legault.
Je tiens à remercier personnellement Valérie Lehoux pour sa précieuse biographie Barbara, portrait en clair-obscur, qui a été pour moi la référence tout au long de la fabrication de cette série.
Et une dernière fois, Barbara, avec François de Letraz.
La plus belle histoire d'amour, c'est une chanson qui a d'abord été faite pour une passion pour quelqu'un.
Non.
Elle et a... ensuite, qui est devenue une...
Non. La plus belle histoire d'amour n'a jamais été écrite pour quelqu'un. Elle a été écrite pour le public. Parce que c'est comme ça. Elle a été écrite et je l'ai chantée c'était en 64, je crois, peut-être même la première fois où je me suis levée de mon piano. Elle n'a jamais été écrite pour un homme ni pour une femme, parce que c'est la question qu'on me posait. Elle a été écrite pour le public, mais aujourd'hui encore, c'est vrai que la plus belle histoire de ma vie de femme qui chante, ça reste le public. Donc c'est une chanson que je pourrais chanter à toute heure, jusqu'à mon dernier souffle, je pourrais chanter cette chanson. Alors qu'il n'est pas évident que les chansons que j'ai écrites pour un homme, je puisse les chanter jusqu'à mon dernier souffle, je ne crois pas du tout. Donc ça reste aujourd'hui quand même l'amour auquel je suis le plus fidèle.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, où les morts sûrs d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage et j'ai tourné bien des pages sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importait décembre si c'était pour vous. Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route, celle-là qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure si ce soir je vous jure que pour vous je l'ai fait à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver et la neige à mon cou, pour que je perde patience et j'ai calmé ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage, mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Que le diable vous emporte, d'autres m'ont ouvert leurs portes, heureuse je m'en allais loin de vous. Oui, je vous fus infidèle, mais vous revenez. J'ai pleuré mes larmes, mais qu'il me fût doux, ou qu'il me fût doux ce premier sourire de vous. Et pour une larme qui venait de vous, j'ai pleuré d'amour. Vous souvenez-vous, ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre, ici même, vous en souvenez-vous.
nous regarder sourire, à nous aimer sans rien dire. C'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir, je vous remercie de vous. L'histoire d'amour, c'est vous.
C'était Barbara en noir et blanc.
Cette émission est présentée par Anne Dorval
et signée Francis Legault.